Donc notre troisième session des Jeux littéraires masqués. On est content d'être ici, ma foi. On verra bien si on est content à la fin aussi. Je vais commencer par les remerciements qui sont d'usage mais qui viennent du fond du cœur. Merci. Il me coupe la chic, j'ai même pas commencé, j'y vais. Quand même, je voudrais remercier notre président. Merci Braz d'Apen Gualanet à Mouskoulet. Merci à notre chef ten, Catherine Leferrand, la agradecemos. Many thanks to Yvon and Yvon à la technique. Bon, le Gouélan est polyglotte, mais je vais continuer en turc, traduit en français. Bon, merci au CA, à tous les bénévoles, et merci à vous, cher public, larophile. J'ai appris l'an dernier qu'en latin, Gouélan, ça se dit Larus, alors j'en profite pour le replacer, faire ma savante. J'ai donc fait le néologisme, larophile. Voilà, et bien sûr, merci à nos chers auteurs, ici présents, Jean-Bernard Pouy, Patrick Reynal, Gérard Hall. Ils ont déjà participé à nos réjouissances. On a un nouveau venu au festival, Lucas Fournier, qui est tout par là-bas, et un invité de dernière minute, Claude Mesplaid. Alors, sans plus attendre, on va commencer. On va démarrer par un texte à démarreur. Il vaut mieux avoir un démarreur qu'une manivelle. On verra bien ce qu'on va en faire. Bon, j'embraye, on ne va pas attendre la marée. Musique, maestro.
Ça commence très dur.
J'ai chaud.
Le Gouélan Masqué 14e édition vous présente Les Jolis Magots.
Alors, les textes à démarreur, il y a une phrase qui initie le récit. Vous allez comprendre de toute façon. À Lucas Fournier, je lui ai demandé de faire un texte qui commence par « Je me demande si ». Et c'était bien ça, Lucas. Et donc, il devait faire sa valise de festivalier. Et comme c'est un homme qui aime être contraint, je lui ai rajouté une difficulté supplémentaire, ce qu'on appelle un logorallye, à savoir qu'un certain nombre de mots vont devoir apparaître dans l'ordre prévu dans ce qu'il a écrit. Alors, je vous donne ces mots. 68 tard, femme de marin, tempête, procrastiné, affable, redouté, chouchène, langoustine, chauve, langoureuse. De quoi en avoir plein la valise. Alors, comment allez-vous, Lucas Fournier?
Très bien. Je me demande si j'ai compris ce que vous m'aviez demandé, mais je vais essayer.
Vous allez me dire, je me porte comme une valise, j'ai des hauts et des bas. À vous.
68 tard. Je me demande si les organisateurs du festival ne se sont pas trompés en parlant des 68 arts représentés ici. Parce que le 7e art, je vois, hein, mais les autres, et pour arriver à 68, vous m'auriez dit 69. Non. Là, je vois assez bien ce qu'on peut faire au GM avec le 69. Non, JB, GM, c'est pas gentil membre 69. Non, c'est Gouélan masqué. Femme de marin. Je me demande si les marins de Pinmar et surtout les femmes des marins de Pinmar sont au courant pour cette année. Il y a une dépêche d'Ouest France de ce matin. DSK aurait déclaré, et puis marre d'aller sucer des Esquimaux au Groenland masqué, autant susciter des mots exquis au Goéland masqué, et puis c'est marre. Tempête. Je me demande si je pourrais goûter aux célèbres bulots de Pinmar, ceux dont Jean-Bernard Pouy prétend qu'on ne les récolte que collés aux orifices naturels des noyers qu'on retrouve sur la grève après les tempêtes.
C'est vrai ? Oui, c'est vrai.
Procrastiner ? Je me demande si quelqu'un sait traduire en breton « crastibi mihi odie ». Non, c'est la définition de procrastiner en latin. Non, personne ne connaît. Hein. Le latin, c'est pourtant pas difficile. Post coitem, animal triste. L'employé des postes est un animal triste. Vous voyez, c'est facile. Hein. Bon, écoutez, alors, vu l'ambiance, je propose de vous faire procrastiner l'année prochaine. Affable, je me demande si, compte tenu de la présence inopinée de Franck Ribéry ici à Pinmar, vous savez qui reste, si, compte tenu de cette présence, la reine d'Angleterre qui était hier à Aromanche ne va pas en profiter pour passer une tête et lui faire un bisou. Alors, je connais vos sentiments républicains, mais je vous demande à tous de vous montrer affable avec la belle grand-mère de Kate Middleton. Nous n'aurons pas à redouter la pluie. Je ne veux pas être pessimiste, mais un proverbe météo local prétend que quand le goéland, masqué ou pas, vole le bec en avant, c'est signe de pluie.
Oiseau de mauvais augure.
Chouchen. Justement, je me demande si Jean-Bernard avait pris quelque chose quand il m'a dit « Tu verras qu'à Pinmar, le chouchen est à Jean-Louis Borloo ce que le guano est à Henri Guénaud. » La langoustine. Alors ça, je me demande si l'obligation qui m'est faite d'installer au forceps une langoustine dans le débat n'est pas une sorte de bizutage ignoble. Marie, ton homard m'a tué, mais ta langoustine m'a achevé, là. Chauve, je me demande si le monsieur au fond, qui ressemble à Homer Simpson, ne serait pas un éléphant du UPS. Monsieur, vous êtes chauve ? Oui. Vous êtes breton ? Oui, ah ben c'est ça. Alors vous êtes Jean-Yves Le Drian, c'est ça, non ? Ah non. Monsieur Le Guen, peut-être, alors. Bernard Poignant ? Non plus. Ah. Ah, et vous, vous êtes corse, là, monsieur, là. De Calvi, c'est ça, oui, je connais le proverbe. Hein. Bastianon, Calvici, oui, bien sûr. Et enfin, langoureuse. Je me demande si j'aurai le bonheur de croiser au festival le gracieux Guillaume Musso ou le talentueux Marc Lévy, ou, mais c'est un rêve, l'immarcessible et langoureuse Amélie Nothon et sa belgitude, et à tout hasard, j'ai emporté avec moi ses œuvres complètes.
Merci.
J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien.
Alors on continue. Dans les textes à démarreur, les auteurs qui sont là sont des habitués du festival. Ça va être notre séquence nostalgie. Je me souviens du goéland masqué. Si Jean-Bernard Pouy veut bien commencer, puisqu'il est en bout de table, se souviens-tu du goéland masqué ?
C'est quoi qu'il faut que je commence ?
Que tu nous fasses un texte à la mode Pérec.
Allez, je me souviens. Il y en a beaucoup, mais bon, j'en fais un par un ou tout en même temps ?
Cette fois-ci, la dernière fois, on avait fait une session de jeux littéraires au bistrot, et puis au bout d'un moment, certains ne s'entendaient plus picoler, on nous avait dit qu'il fallait qu'on arrête. Enfin, certains, auteurs, je précise bien, les gens qui étaient au comptoir. Et donc, on avait dû interrompre un peu rapidement nos jeux littéraires. Et donc, cette fois-ci, tu as le droit de le faire en entier, tes souvenirs, ton évocation du festival du goéland masqué.
Alors, je me souviens de la première fois où j'ai vu Josette, la chef à l'époque. Un choc. Ça changeait de tout et de toutes les autres animateurs de festival. Elle était, enfin, je ne sais pas quelle impression j'ai eue directement, mais enfin, elle était plus imposante que le phare d'Eckmühl lui-même. Elle est toujours là, d'ailleurs, Josette. Je me souviens d'avoir absolument rien compris la première fois que j'ai mis le pied sur la terre gorgé d'eau de ce coin réputé de la bigoudénitude, à la complexité du territoire. Où est Kériti, Saint-Guénolé, Guilvinec, Pinmar, tout ça. Maintenant, je sais, et du coup, je marche des heures entières à pied. Je me souviens de la première fois où je suis arrivé à Saint-Guénolé, en me disant que même s'il y avait des centaines de goélands, braillards et des tonnes de guano un peu partout, ce n'était pas possible qu'il y ait des lecteurs dans cette bourgade kirghize qui ressemblait à Oulan-Bator. jusqu'au moment où j'ai vu arriver deux ou trois cars remplis de fanatiques du troisième âge, amenés de force par Josette, et qu'ils sont tous repartis avec 15 bouquins chacun dans les bras. Ça avait été un vrai succès. Je me souviens aussi, dans les premières années du festival du dîner de fête, dans un resto au bord de la mer, là-bas, avec un convive local, très sympa, qui nous récitait des textes et des poèmes en breton. Tout le monde rigolait, sauf nous. Ça avait l'air d'être un peu salace, sauf que nous, on comprenait absolument que dalle, rien. Je me souviens de la pizza en face du festival. Parce que, bon, ils avaient moins de bénévoles que maintenant. Ils devaient avoir aussi moins de subventions. Et donc, on se demandait comment le couple de restaurateurs allait faire pour contenter tout le monde en si peu de temps. Et là, c'était quand même des grands moments d'angoisse. Je me souviens quand même beaucoup des petits bars, où on va toujours d'ailleurs, comme celui de Cathy, où il y avait conférences, lectures et débats, quasiment vide un quart d'heure avant le début des hostilités et plein comme des œufs pendant la réunion. Et on se demandait toujours, mais d'où venaient les gens? Parce qu'ils arrivaient tout d'un coup, on ne voyait pas vraiment, vraiment d'où. Je me souviens des petits matins en plein vent à frissonner en regardant la mer, juste à côté de la sinistre chapelle, nommée pourtant Notre-Dame de la Joie. Ça, je ne comprends pas pourquoi. Bon, ça, quelqu'un m'expliquera un jour. Je me souviens aussi d'un auteur, Thierry Criffaut, au bord de l'hypothermie, parce qu'il avait voulu frimer un soir en se baignant à la plage de la Tronche. Et comme il ne connaît pas la Bretagne, il ne savait pas que l'eau faisait 13 degrés. Donc il a fallu le restaurer un peu, et puis surtout le réchauffer à coups d'eau minérale bretonne. Je me souviens d'une visite fomentée par Josette, avec Marc Villard, à la maison de retraite de Pinmar, à côté. Un grand moment de poésie, de solitude, et où on devait parler de la lecture et du polar. Et moi, comme j'ai un peu l'habitude de ça, j'avais balancé Villard qui était terrorisé. Il ne savait pas quoi dire. Les personnes âgées qui étaient toutes un peu prostrées lui faisaient peur. Et donc il fait son truc sans aucun... pas beaucoup de réactions dans le public, sauf une dame qui, à la fin, se lève, le regarde dans les yeux, lui dit « Et les langoustines ?» Et là, j'ai vu quand même un auteur de polar qui, pourtant, écrit des horreurs tout le temps, toute sa vie, être complètement laminé par l'adversité. Nous y sommes retournés, d'ailleurs, avec Patrick, il n'y a pas longtemps, et c'était formidable. Et je me souviens de... Après j'arrête. Je me souviens de mon désarroi en découvrant la nouvelle salle du festival, c'est-à-dire ici, qui était signalée par une énorme pancarte devant, avec marqué « Jackie l'andouille » dessus. Et là je me suis dit, on a monté d'un cran, il y a quelque chose qui a changé.
Merci JB. On continue avec Claude.
Tout ce que je vais dire est véridique. Je me souviens la première fois que j'ai débarqué à Penmar, plus exactement au festival du Goéland masqué. Durant le vol Paris-Quimper, j'avais lu dans le journal un entretien du footballeur Franck Ribéry qui disait « Je pense que ce soir, ça a été beaucoup meilleur. Pourtant, c'est vrai qu'on vient de jouer contre une équipe qui sont vraiment très fortes. Mais on est des joueurs qu'on va vite avec le ballon. C'était pas un match facile face à une équipe du Luxembourg qu'ils étaient tous derrière. Je me suis dit, si Ribéry parle ainsi le français, lui qui vit en Allemagne, comment parle-t-il l'allemand? Je me souviens la première fois que j'ai participé à l'inauguration du festival du Goéland masqué, j'ai assisté à la transmission d'un oiseau dépenaillé de toutes parts. Le lauréat de l'année précédente devait remettre au gagnant de l'année en cours un ersatz de goéland, tout en lambeaux sans doute parce qu'il avait beaucoup servi. Et je me suis mis à penser à ce poème. Parfois, pour s'amuser, les hommes d'équipage prennent un albatros, vaste oiseau des mers. Merde, je me suis gouré. C'est un goéland qu'il fallait. Et pour remplacer cet exemplaire tout pétassé qui trônait lors de ma première visite. Ou alors, il faut créer le prix de l'albatros masqué. Je me souviens de la première fois où je suis venu au festival du Goéland masqué. Il y avait le dimanche soir un repas collectif pris au bord de la mer. Vers minuit, j'étais attablé avec quatre dames encore inconnues et nous buvions du vin en bavardant. L'une d'entre elles, une petite rousse, me faisait face. J'appris plus tard qu'elle se prénommait Thérèse et encore plus tard qu'elle jouait de l'accordéon. Mais c'est d'une autre musique qu'il sera question ici puisque Thérèse soudain me lança. Ça vous ferait plaisir de voir une photo de ma chatte ? Un peu interloqué par une question aussi directe qu'inattendue, je n'en laissais pourtant rien paraître et du tac au tac, sous les ricanements des trois autres bergères nocturnes qui ne perdaient pas une miette de ces dialogues de feu, je répondis d'une voix qui se voulait ferme. Oui, ça me plairait. Alors Thérèse sortit un appareil photo et fit défiler des tableaux qu'elle avait peints en prenant comme modèle les animaux qui vivent sous son soi. Je vis ce soir-là les plus belles chattes de Bretagne. Noires, rousses, grises, au poil ras ou frisé, ce fut un défilé grandiose. Quelques heures plus tard, je me préparais à repartir à Toulouse lorsque Thérèse me demanda de lui signer un de mes livres. La dédicace fut vite trouvée. Pour Thérèse, la seule à m'avoir montré une photo de sa chatte. Et l'intéressée partit en riant faire le tour de ses connaissances pour leur montrer cette dédicace insolite.
Merci Claude. Nul doute qu'avec une pareille pub pour le Goéland masqué, on va voir arriver un tas d'auteurs mâles, mais ce n'est pas sûr qu'on ait beaucoup de femmes qui continuent à venir au Goéland. Alors on va continuer. Claude parlait de la remise du trophée, enfin de la passation de trophée. On continue par Gérard.
Je me souviens d'un goéland qui me chia sur la braguette le jour de mon arrivée. Véridique. Je me souviens de José-Louis Boquet et de son chien. Je me souviens surtout de sa femme. Ouais, bon. Désolé, il n'est pas là. Je me souviens d'une salle toute petite sur l'île Fougère qui n'était pas une île. Je me souviens de trois jours de tempête. Je me souviens de trois jours de grand soleil. Je me souviens de Del Papas, le Marseillais se baignant à Porscarne. Je me souviens d'une discussion avec Bruno Le Floch, Cabane et José-Louis, sous le soleil, chez Marie-Cat. Je me souviens d'une discussion avec Criffaut et Thérèse, tard dans la nuit, chez Marie-Cat. Je me souviens de Thérèse qui disait à Criffaut, c'est la même Thérèse, hein, qui disait à Criffaut, les mots, c'est bien joli, mais les actes, c'est mieux. Je me souviens de Thérèse qui l'invitait à la baise avec celle qu'il convoitait sur la dune chez Marie-Cat. Ça en passe des choses chez Marie-Cat. Je me souviens du rire de Lally Walker. Je me souviens de Jean-François Quatmer chantant le Brogoz Mazadou. Je me souviens d'une édition dans l'ancienne école où nous étions bien. Je me souviens de l'agneau à tonton. Je ne sais pas s'il est là, ce tueur, ce serial killer. Je me souviens de Denis Flageol s'effondrant dans mes bras fin sous à cause de l'agneau à tonton. Je me souviens de Denis dans une flaque de boue et moi qui le tiens et moi qui dérape à cause de l'agneau à tonton. Je me souviens de Mouloud et Jean Purefraise venus à mon secours. Je me souviens d'avoir dit... Ah oui, je me souviens de Mouloud et Jean Purefraise portant Denis jusqu'à sa couche. Je me souviens d'avoir dit, dans nos polars, on n'insiste pas assez sur le poids des corps. Je me souviens d'avoir eu le premier prix du Goéland masqué. Je me souviens que mes amis, longtemps, se sont moqués et m'ont appelé le Goéland masqué. Je me souviens de l'enveloppe et du chèque. Je me souviens d'avoir dit « Qui a cru que les bigoudins n'étaient pas généreux ?» Je me souviens que ça n'avait fait rire personne. Je me souviens que l'année d'après, lors de la remise des prix, quand j'ai sorti l'enveloppe de ma poche en disant au lauréat « Tu vois, je rends l'argent, c'était juste un prêt, l'an prochain tu devras faire pareil. » Je me souviens que certains l'ont cru. Je me souviens de Thérèse, de ses chats et de sa maison fleurie, de ses petits mots doux, pleins de gros mots d'auteur. Je me souviens de Josette et du capitaine. Je me souviens de leur récit de voyage. Je me souviens de la voix de Josette et de son côté coquin, mine de rien. Je me souviens de la voix de Jean-Pierre. Je me souviens de la bonne humeur de chacun. Et je me souviens d'avoir été le dernier couché, trop souvent.
Thank you. Merci Gérard. Tu proustes un peu quand même, hein. C'était un rappel des jeux qu'on avait fait durant le week-end à Chicati, à Saint-Guénolé. Il y avait certains vers le on avait recouru au dictionnaire des verbes qui manquent, donc avec des néologismes que chacun devait exploiter. Et donc Gérard devait s'étendre longuement sur le verbe prouster. Et bien sûr, comme il nous ressort là quelque chose quand même qui...
Le week-end où on a été chassé par les alcooliques ?
Absolument.
Ce qui est quand même la honte totale pour nous. Hein, quand même.
C'est vraiment la pire des humiliations. Ah
ouais. Pas vrai, c'était très très bien.
J'étais à Patrick ravi. Maintenant, se souvient-il de quelque chose ?
De rien. Je me souviens de rien, sauf d'avoir été chassé par les alcooliques qui m'ont sauvé, tel le gong, parce que j'avais complètement oublié de faire cet exercice. Donc là, je me souviens d'avoir encore une fois de plus oublié de faire cet exercice.
Tu t'appelles comment ?
Comment c'est déjà JB ? Trompette, Lila, Banane ?
Trompette, Lila, Banane.
On est où ici ?
À Trompette.
D'accord. Et c'est qui le président du Goéland Masqué ? Comment il s'appelle ?
Denise.
Ah, ça va mieux déjà, je suis un peu rassurée.
Non, parce que je me souviens de la tronche de Denise, une fois que j'ai écrasé ses rosiers avec sa voiture. Elle m'a prêté sa voiture, j'ai fait marche arrière et avec sa voiture, j'ai écrasé ses rosiers. Elle a fait une tête que je n'oublierai jamais. Je me souviens, une fois de plus, avoir tout oublié de ce qui s'est passé l'année dernière, sauf de la joie qui m'a saisie lorsqu'on m'a dit que je pourrais revenir l'année prochaine. Merci au président. Je me souviens de Thérèse, comme tout le monde, mais je n'en dirai pas plus. Hein. Je me souviens, mais je ne sais pas... oui, ça je vous l'ai déjà dit. L'année prochaine, je me souviendrai d'avoir été abandonné sur le trottoir par une dame Lepindue, qui est une drôle de bonne femme. Je ne me souviens pas du tout de ce que tous mes amis se sont souvenus. Donc, je ne devais pas y être. Et voilà, je ne me souviens plus de rien et c'est tant mieux parce que j'aime pas beaucoup les souvenirs.
Pour changer complètement de rythme et d'objectif, je vais vous proposer un jeu qui est un jeu un petit peu une sorte de concours, un défi entre le public et les auteurs. Alors ça part d'un... Voilà. Donc ils n'ont rien préparé, vous n'avez rien préparé. C'est un jeu qui est assez éculé, qui s'appelle le cadavre exquis. Vous connaissez peut-être cadavre exquis. Donc j'ai préparé des enveloppes, une pour le public et une pour les auteurs. Donc vous êtes cinq, et j'ai besoin de cinq personnes dans le public qui accepteraient de se prêter au jeu. Je vous explique peut-être, parce que peut-être que vous ne connaissez pas tout à fait le jeu. Donc c'est un jeu qui consiste à faire composer une phrase... À l'origine, c'est un dessin, mais ça peut être une phrase, par plusieurs personnes, sans qu'aucune d'elles puisse tenir compte de la collaboration des autres. C'est-à-dire que vous devez écrire, par exemple, juste un groupe nominal qui servira de sujet, quelqu'un devra choisir un verbe, et au bout du compte, ça fait une phrase. Voilà. Alors, je vais distribuer les papiers, et pendant que... Je vais vous laisser à peu près 3 minutes pour choisir ce que vous allez écrire, et pendant ce temps-là, je passerai une chanson qui est en lien. Et après, donc, une fois que tout le monde aura écrit, on récupère les papiers et donc on aura deux phrases et puis on pourra comparer.
Pour ceux qui n'ont pas la télévision, j'explique. Mouette Rieuse passe dans les rangs pour distribuer des petits papiers avec chaque consigne. Et elle se dirige vers le public où elle va choisir des victimes.
Passer un peu notre ennui. Tu écris un mot, n'importe quoi, et moi j'en inscris un autre après toi.
Alors, donc ce qu'il fallait faire, c'était, j'avais imposé à la fois soit un groupe nominal, soit un verbe avec une figure de style imposée. Je vous lis donc les solutions pour les auteurs. Alors, je les remets dans l'ordre. Donc au début, il fallait un complément circonstanciel de lieu sur un ton lyrique, sur le thème de la mer. Et ça donne, dans cette anse remplie d'algues vertes qui sentaient la mort mais qui existait, qui excitait les sens. Ensuite, il fallait un groupe nominal avec une métaphore qui évoque le goéland. Oui, je lis directement. D'accord. Allons-y. Dans cette anse remplie d'algues vertes qui sentaient la mort mais qui excitaient les sens, un rossignol borgne ayant l'autre œil crevé massacra la chatte brune. Le loup noir est moins beau que le masque de Zorro. Je pense qu'il y a quelque chose qui... Bon. Le compliment circonstanciel de manière n'a pas été très explicite. Côté public, ça donne. Sur les flots, l'immense putain fait la houle de ses cheveux d'azur et dévoilerait le vélo bleu, sa chevelure noire comme l'ébène.
Oula, là, c'est très fort, là, oui.
C'est bon. On passe au jeu suivant, qui est le roman interactif, ou plus exactement une nouvelle interactive. Le principe, c'est que Jean-Bernard Puy a écrit un premier chapitre, donc de la nouvelle, dans lequel il a semé des petits cailloux pour ses collègues, des pistes à suivre ou pas. Ce chapitre se clôt sur trois possibilités. Il a filé sa copie ensuite à Patrick Reynal, qui a suivi ou non l'envolée de JB. Ensuite, Patrick, son texte a été transmis à Lucas Fournier. Et à Lucas Fournier revient je ne sais pas si c'est le plaisir ou pas, de terminer la nouvelle. Et c'est un exercice bien délicat, puisqu'on sait bien que dans l'art de la nouvelle, ce qui compte, c'est la chute. On y va, Jean-Bernard Puy ?
Bien. Malo Stangvras de Saint-Gast, vieille famille bretonne tombée dans la pâte à crêpes, avait un métier relativement moderne et en même temps un tout petit peu surréaliste. Tout le monde sait que les phares sont automatisés et qu'il n'est plus nécessaire d'installer un pauvre gars là-haut, en plein vent, en pleine déprime, tout seul à parler avec les goélands et ne pouvant pas bien dormir. En effet, il y a toujours la lumière sur un phare, surtout la nuit. Malo était employé par la maintenance de phares et balises, car il y a toujours des pannes, même dans les systèmes les plus sophistiqués. L'automatisation n'est pas obligatoirement synonyme de pérennité et de sûreté. Il y a toujours des rouages qui grippent, des lampes qui crament et des plaquettes électroniques qui se mélangent les pinceaux. Et, bien évidemment, du nettoyage s'impose parfois, non seulement le guano, très répandu sur nos côtes, mais aussi les algues et autres filaments de goémon plaqués par le vent sur le verre des lentilles. Sans parler du sable projeté par les tempêtes hors du commun, et quelquefois, sur les phares les plus petits, des galets transbahutés par des vagues gigantesques. Ah, c'est beau. Mais là, Malo Stangvras de Saint-Gast venait d'être envoyé en urgence au phare d'Ecmul, un des plus hauts du monde, 60 mètres, pour réparer une fuite dans le bac de mercure sur lequel reposent les deux lentilles Fresnel. Une seule facette de la modernité n'avait néanmoins pas encore atteint le monde clinquant des phares, l'ascenseur. Et Ecmul, c'était 272 marches pour arriver en haut. Ah ça, la marquise Adélaïde Louise d'Ecmul de Bloqueville n'avait pas lésiné sur l'escalier. 272 marches, putain, plus 13 pour parvenir au campanile abritant la lanterne. Toutes ces marches qu'il fallait escalader à 5 ans de la retraite, avec la tension artérielle et le lumbago qui rôde dans les parages. Il n'était pas, lui, Quentin Thomas, un jeune coureur de 20 ans, originaire de Quimper, qui en 2013 avait grimpé l'escalier en 47 secondes 02, record du monde. Alors, il fallait être très organisé. Et avant d'escalader l'Everest, il y avait intérêt à ne rien oublier en bas dans la camionnette. Alors Malo, Stangvras de Saint-Gast éplucha sa liste de Sherpa Bigoudin. Une bonne journée là-haut, donc en plus de tous les outils nécessaires, il fallait aussi prévoir les sandwichs, les bières, le kawaii, l'iPod et le Doliprane. Il refit trois fois le compte pour être sûr, et alors Tata Tsang entama la grimpette. Dans cet exercice, chacun a sa méthode. Soit faire son jeûne, c'est-à-dire y aller à fond les manettes, soit la jouer pépère en installant et organisant des paliers. Mais l'essentiel était d'occuper la tête, le cerveau, si possible avec des trucs autant personnels que mnémotechniques. Pour Malo, c'était des réflexes qui lui restaient de son service militaire et des longues marches au petit matin. Il montait en cadence en psalmodiant « pas, pas, maman, pas, pas, maman ». Des quarts, des bidons. Mais il en avait un peu marre de ses enfantillages, donc il décida de gravir son calvaire en décidant qu'une fois arrivé en haut, il se serait souvenu des sept merveilles du monde. Il aurait pu choisir les sept nains de Blanche-Neige, mais il l'avait déjà fait. Il suffisait qu'il en retrouve une de merveille, toutes les 38 marches, et ça serait bon. Alors il commença par le phare d'Alexandrie, sa fastoche. La deuxième merveille, facile aussi, les pyramides d'Égypte. Bon. Et hop, 20 marches avaient été avalées. Le colosse de Rhodes arriva facilement, il avait vu le film. Et bien sûr, les jardins suspendus de Sémiramis à Babylone. Et c'est toujours à ce moment-là que ça se complique. Et qu'il ne fallait pas se planter. Les trois dernières se mélangeaient toujours dans sa mémoire. Et résultat, immanquablement, il en oubliait une. En pensant à tout ça, il s'était grimpé une cinquantaine de marches et avait déjà mal aux jambes. Et puis, tout se mélangea. Le temps, l'effort, la sueur, le souffle. Mais il retrouva le mausolée d'Halicarnasse vers la 120e marche et le temple d'Artémis à Éphèse vers la 200e. Et après rien, le schwarz, le vide. Il arriva en haut du phare totalement déprimé et rétamé. Au moment où il mit le pied sur le campanile, 13 marches avant la lanterne, il se remémora la statue de Zeus à Olympie. Au bord du collapse, en plein vent, il se dit qu'il avait droit à une bonne cigarette. Il l'avait bien mérité. À ce moment précis du récit, trois possibilités. 1. Il s'aperçoit qu'il a oublié son briquet en bas, dans la bagnole et dans la boîte à gants. 2. Un document scotché sur la lanterne lui apprend qu'un technicien de Veolia est passé la veille pour réparer la fuite. 3. Un appel urgent sur son portable lui ordonne de se pointer le plus rapidement possible au phare de l'île Vierge, Fissière Nord, 82 mètres, 397 marches, pour réparer une panne électrique.
Alors c'est sûr que c'est là qu'on voit que ni JB ni Malo n'ont l'esprit d'escalier.
Mais elle a eu du temps pour la...
Alors Patrick, dis-nous, qu'est-ce qu'il va faire Malo? Il va se faire la Vierge tout en se remémorant les sept collines de Rome?
La clope crânement fichée dans le bec, il essaya d'allumer son briquet.
T'as choisi quelle éventualité?
Et
dans
ben vous
le...
Allez, vous allez voir.
Ah, suspense. Ah.
Il essaya d'allumer son briquet que l'haleine aussi puissante que taquine d'un putain de vent de Norrois s'amusait à éteindre quand la musique de Trimartelode retentit dans la poche droite de son pantalon. Malo adorait cette chanson. C'était même pour ça qu'il l'avait choisie comme sonnerie pour son portable. Elle le remplissait d'allégresse, cette chanson. Elle lui faisait oublier ce triste symbole de la modernité que les phares et balises l'avaient contraint à trimballer en permanence et qu'il détestait de toutes ses forces, comme tous ces autres machins électroniques qui, sous prétexte de faire progresser la civilisation, renvoient l'humanité en esclavage. Malo n'arrivait pas à comprendre qu'on puisse croire un instant que le fait d'être joignable en permanence améliorer en quoi que ce soit son statut d'homme libre. Sans compter que des tas de gens qui n'auraient jamais songé à vous appeler se mettent immédiatement à vous sonner trois fois par jour pour vous raconter le genre de conneries qui s'échangent le soir au bistrot et déjà lestés d'une chopine. Mais le pire, évidemment, c'était ce cordon ombilical qui le reliait en permanence à son boulot, le privant à la fois de toute initiative et de tout relâchement. Bref, Malo n'était pas loin de penser que ceux qui inventent la civilisation moderne sont ceux qui, des siècles plus tôt, avait inventé les chaînes des galériens. Comme nous tous, il aurait pu ne pas répondre. Mais tout possesseur de portable sait à quel point il est difficile de résister à une sonnerie qui va peut-être vous annoncer que votre tante Padelec vous a laissé son confortable magot ou que la touriste finlandaise que vous avez levée hier soir a décidé que finalement, elle n'irait pas contempler la pleine lune avec vous ce soir sur la grève pendant que le sable est encore chaud du soleil de la journée.
Malo attendit donc le dernier moment pour interrompre Trimartelode. « Malo, fit la voix de son chef, tu lâches tout et tu files à l'île de la Vierge. On dirait bien que le grille-pain du gardien a fait sauter tout le bousin. Mais Polo, je viens juste de... M'en fous. On annonce un gros coup de tabac sur la zone et si la Vierge est éteinte, les cierges vont s'allumer. Bon, mais qu'est-ce que je fais avec Ekmul ? Ne m'oblige pas à répondre à cette question, pouffa ce crétin de Polo, qui, Malo l'avait remarqué depuis longtemps, ne pouvait s'empêcher d'associer Ekmul et Trou du cul. Malo se posa sur une marche, alluma sa clope et fit le point de la situation. 272 plus 13 égale 285, multiplié par 2 égale 490, plus 397, le nombre de marches de la Vierge, multiplié par 2 égale 794, plus 490 égale 1079 marches à se farcir, moitié montée, moitié descente dans une seule et même journée. Malo entreprit donc la descente d'Ekmul, qu'aurait-il pu faire d'autre, le malheureux ? Mais au lieu de rythmer son pas sur des chansons de scout gravement débiles, il se repassa le film de sa vie. Pas terrible. Quand il arriva au bas, son moral était à la même altitude que le socle du phare. « Merde, dit-il essoufflé, les genoux en compote, trop c'est trop, et enfiler le bedeau, c'est pas de la religion. » Il regarda la mer, emplit ses poumons de l'air du large et décida de changer de vie, radicalement. À ce moment-là, trois possibilités. Il va immédiatement s'engager dans les chasseurs alpins. 2. Il cherche à se faire virer le plus vite possible pour avoir droit au chômage. 3. Il décide enfin d'imposer la vieille peau riche qui le convoite depuis des années.
Pauvre Malo, il en a vraiment plein le dos pour ne pas dire autre chose. Alors, c'est pas fini. Attendez, il y a encore la chute qui vient puisque Lucas Fournier a continué le texte. Alors, je me demande si Malo s'engageait dans les chasseurs alpins, ce serait bien raisonnable.
Effectivement, ce ne serait pas raisonnable.
Je me demandais si elle allait épouser Blanche-Neige.
Ah, je pense que ça va finir par un mariage. Donc il décide d'épouser enfin la vieille peau riche qui le convoite depuis des années. Malo Stangvras de Saint-Gas se souvint que Gwenaël Le Gloanet Caperdalène, belle comme Crésus, l'attendait retirée en haut du phare ouest de Gourvenec-Lahouzac. Brindille fragile, issue de la branche cadette de la vieille famille des Aperdalène de Plouescat, l'immarcessible Gwenaël, ardente et rêveuse, s'était longtemps morfondue dans l'attente indécise et fébrile de Malo Stangvras de Saint-Gas, dont elle savait qu'un jour, lassée de grimper en haut des phares, il consentirait à escalader sa propre face nord à elle, qu'elle offrait nue chaque matin dès l'aube à l'assaut timoré du soleil bigoudin, prête à ce que le destin lui donna d'accorder enfin à la vigueur rugueuse de Malo ce qu'elle avait su garder depuis 50 ans. D'intime et d'intact. Pour un changement, c'était un changement de vie. Malo se retrouvait une fois encore au pied d'un phare. Le phare ouest de Gourvenec-Lahouzac et ses 339 marches à gravir pour aller demander la main de sa douce. Il reprit sa vieille technique de Sherpa armoricain en se remémorant marche après marche, cette fois-ci les 12 travaux d'Hercule. Il déroula tranquille l'hydre de l'air, le sanglier d'Érimante, le lion de Némée, les écuries d'Augias, ça avance Hercule, et comme disait le philosophe suédois Igmar Ikea, le meilleur de l'amour, c'est quand on remonte l'escalier. Malo savait que Gwenaël l'attendait pantelante en haut du Far West. Tiens, tant qu'à faire du Far West, il aurait pu choisir de retrouver en montant le nom des 7 mercenaires, fastoche, hein. Yul Brunner, Steve McQueen, Elie Valak, Charles Bronson, James Coburn, Brad Dexter et Gérard Holtz. Ah non, pas Gérard Holtz. Orchbus Holtz. Amifar ayant réussi à boucler ses 12 travaux avec la très jolie ceinture d'Hippolyte, dont peu de gens se souviennent, Malo se remit pour la fin de l'ascension à recenser les 7 merveilles du monde et, comme tout à l'heure, passer les jardins de Babylone et le temple d'Éphèse, ça coinçait pour la dernière. Il était arrivé en haut du phare, rétamé mais résolu, sur les rotules. Mais ce n'est pas les rotules que Gwenaël convoiterait. Oh, j'espère être à la hauteur, pensa-t-il. Ben, à la hauteur dans un phare, c'est possible. Il pénétra dans la rotonde. À la place de Gwenaël se trouvait là un barbu, chauve, peut-être Monte Cristo, ou plutôt non, un genre de Gandalf dans Le Seigneur des Anneaux. Un anneau pour un mariage, pourquoi pas, se dit Malo. Il demanda, mais qu'est-ce que vous foutez là ?
Je suis le père Fouras. On m'a viré de Fort Boyard, alors je squatte le phare.
Mais Qu'as-tu fait de Gwenaël, le Gloinec, à Père d'Haleine, scélérat ?
Non, c'est pas les rats. Je vous le dirai seulement si vous répondez à l'énigme.
Trimatelot, là, là, sonna dans la poche de Malo.
Ah, vous voulez faire appel à un ami ?
Commenta l'énigmatique Père Fouras. Au téléphone, c'était Polo. Tu te magnes ? On t'attend au phare pour allumer la Vierge. Bon, restez calme, zen attitude. Malo, puisque ses mystères lui échappaient, décida de se laisser faire, tel le bulot sur le plateau de fruits de mer.
Alors, voici la question, fit Fouras. Connaissez-vous l'énigme du squelette ?
Malo haussa les épaules.
C'est pas de peau, monsieur Malo. Pas de peau, le squelette.
Allez.
Je vous laisse une deuxième chance. Et l'énigme des roses fraîches, vous la connaissez ? Non ? Toujours non ? Toujours pas de peau et les roses fraîches.
Dans ce qui reste de conscience dans le cerveau de Malo, embrumé par la recherche des merveilles du monde, la quête de sa dulcinée de Plouescat et les interrogations de ce druide déguisé en sphinx d'opérette, une fulgurance s'imposa. Bon Dieu, mais c'est bien sûr ! Dans son état, Gwenaël le Gloinec à Père d'Haleine n'a pu se retirer que dans un seul endroit pour m'attendre, le bien nommé phare de la Vierge. J'y vais. Je répare au passage ce putain de grille-pain du chapitre 2 et on boucle le chapitre 3 avec mon mariage. Épris de cette compassion humanitaire qu'on trouve parfois dans l'œil de la palourde fraîchement pêchée, Malo regarda le père Fouras et d'une voix douce infiniment il lui glissa. Et l'énigme du petit déjeuner, Fouras, tu la connais ? Le vieillard secoua la tête. Pas de bol, mon pote. Au pied des 397 marches du phare de la Vierge, un vrai tourmalet breton, Malo, qui est du genre féru, se lance dans l'ascension et dans la liste des vainqueurs du tour. De Roby Caino, tout allait bien, mais alors, côté Armstrong, ça devient du costaud. Ulrich déclassé, Virenk à l'insu, Sastre rétrogradé. Il fallait remonter jusqu'au 46e du tour 2007 pour trouver un non dopé vainqueur possible. À mi-parcours, Malo se résigna à se rabattre sur la composition du gouvernement Raffarin II. Un pur moment de jouissance mémorielle et d'histoire de France. Éducation nationale. Luc Ferry. Santé. Jean-François Mattei. Relations avec le Parlement. Jean-François Copé. Il eut du mal à retrouver Henri Plagnol, ministre de la Réforme de l'État, mais ce fut un sans faute. Il est au sommet de son art et du phare. Là-haut souffle un vent à décorner les escargots de mer et à déraciner les dents de la mer. Il fait noir. Soudain, une drôle de petite voix fait sursauter Malo. S'il te plaît, dessine-moi un phare breton. Malo n'avait pas envie de se marrer. Encore une connerie de jeter les visées. Il vit alors un drôle de petit bonhomme, la taille de David Pujadas, la blondeur de Laurent Delahousse. T'es qui, toi ?
Je suis le petit prince.
Oui, et moi le prince Charles, répond Malo. À part ça, je veux savoir, petit 1, où est Gwenaël ? Petit 2, où est le grille-pain ? Et petit 3, où est-ce que tout ça nous mène ?
Oh, s'il te plaît, dessine-moi un phare breton.
Trimatelot, là, là, retentit dans la poche de Malo. C'était encore Polo. Allô, Malo, t'es où ? Avec qui ? Tu fais quoi ?
Et là, Malo réalisa la gravité de la situation. S'il se fait piquer la nuit en haut d'un phare paumé avec un petit garçon blond aux cheveux bouclés, ça va faire cher. La pédophilie est peu populaire. Et sa Pénélope de Plouescat risque d'avoir le temps en attendant de refaire toute la tapisserie de Bayeux. Malo dessine rapidement une boîte en carton avec un ruban. Voilà, le phare que tu veux est dedans.
Oh, c'est exactement comme ça que je le voulais, fit le petit prince. Sans raisin ni pruneau. Maintenant, vous me laissez. Il faut que j'aille apprivoiser.
Un renard, oui, je sais, fait Malo excédé.
Un renard ? Un renard dans la mer d'Iroise ? Non. Mais allô, fait le petit prince. C'est un éléphant de mer que je veux apprivoiser. Du côté des alignements de Cornac.
Trimatelot,
grésilla dans la poche de Malo sans grâce de Saint-Gast. C'était un SMS de Gwenaël. Malo, si tu m'aimes, rejoins-moi dans la septième merveille du monde. Et puis plus rien, l'écran noir, plus de batterie, plus de réseau. On était dans le dur, dans le sauvage, toujours cette foutue septième merveille du monde. Malo repartit, désespéré, dans la nuit, comme un destroyer dans la brume. Une lointaine rumeur lui parvint de la lande bretonne. Une fête lubrique, sans doute une de ces rêves parties incandescentes, pleines de vieilles charrues et de 68 arts
qui s'accroche aux tuyas et aux plantes balnéaires. Il s'approcha, seul, tête nue au milieu des bonnets rouges. Sur la scène, une femme se déhanchait. Elle avait la grâce de Roselyne B., un membre du gouvernement Raffarin II, des mollets à la Pantanie, les épaules d'Hercule, la chevelure de Yul Brunner et des seins en forme de pomme d'or du jardin des Hespérides. C'était effarant. Malo la regarda comme un lapin dans les phares. Elle vit Malo et piqua un phare. Soudain, dans les amplis de la fête, un cri retentit. « Ah ! Ah ! Ah ! Voile sur le Nil, barque sur le Nil. Alexandrie, Alexandra, le phare d'Alexandrie, la septième merveille du monde, elle était là !» Malo avança vers elle avec sa démarche d'empereur. Et tel César, empoignant Cléopâtre, le prince Malo se jeta dans les bras de Gwenaël comme un pétoncle en rut. Et son cri de bête assouvie monta dans la nuit où tous les phares de Bretagne, d'Ecmul et de la Vierge, dressés, durs et rudes, éclaboussaient les cieux de velours de leurs fulgurants éclairs.
Un grand moment, n'est-ce pas? Ça commençait par, comme un chemin de croix, puis finalement, on finit par toucher au septième ciel.
Nous avons demandé donc à Gérard Hall de nous faire une publicité de style Canon Discount.
Ouais, mais ça, c'est carrément du grand art, il ne faut pas exagérer non plus.
En fait,
donc, j'ai préféré choisir un air connu et néanmoins breton.
Morgane voudrait dire, pour moi, Drieuse, vous dire pourquoi la réclame.
Ah oui, voilà.
Bien préciser l'objet de ton propos.
Donc la réclame, c'est
elle qui va le dire, laisse-la.
Ah d'accord.
Afin de promouvoir ce merveilleux fascicule au prix déraisonnable de 5 euros, fruit juteux des jolis magots de l'année dernière. Gérard, à toi.
À moi. Alors ça s'appelle la noire vermine et c'est évidemment sur l'air de la blanche hermine. J'ai rencontré ce matin, devant la haie de mon champ, une troupe d'écrivains, de pochetrons et de feignants. Où allez-vous, camarades, avec les bras si chargés, tomber dans une embuscade, viens rejoindre notre armée. Voilà les jeux littéraires, vive la mouette et l'ajon. Voilà les jeux littéraires des bouquins et des chansons. Où allez-vous, camarades, avec les bras si chargés, tomber dans une embuscade, viens rejoindre notre armée. Mamie dit que c'est folie de vendre du goéland, mais je dis que c'est folie de les stocker plus longtemps. Voilà les jeux littéraires, vive la mouette et l'ajon. Voilà les jeux littéraires des bouquins et des chansons. Mamie dit que c'est folie de vendre du goéland, mais je dis que c'est folie de les stocker plus longtemps. Elle aura bien de la peine pour élever les enfants, car j'aurai bien de la peine à en vendre plus de 500. Voilà les jeux littéraires. Vous pouvez chanter en même temps que moi le refrain. Voilà les jeux littéraires, vive la mouette et l'ajon. Voilà les jeux littéraires des bouquins et des chansons. Elle aura bien de la peine pour élever les enfants, car j'aurai bien de la peine à en vendre plus de 500. Je viendrai à la nuit noire tant qu'il nous en restera, comme dans un roman noir, triste et seule, elle m'attendra. Voilà les jeux littéraires, vive la mouette et l'ajon. Voilà les jeux littéraires des bouquins et des chansons. Je viendrai à la nuit noire tant qu'il nous en restera, comme dans un roman noir, triste et seule, elle m'attendra. Et sans doute pense-t-elle que je suis en déraison. Il a fallu qu'on se serre là-bas dans la maison. Voilà les jeux littéraires, vive la mouette et l'ajon. Voilà les jeux littéraires des bouquins et des chansons. Et sans doute pense-t-elle que je suis en déraison. Il a fallu qu'on se serre là-bas dedans la maison. Et s'il m'en reste sur les bras, pourra-t-elle me pardonner d'avoir préféré les livres à l'amour qu'elle me donnait? Voilà les jeux littéraires, vive la mouette et l'ajon. Voilà les jeux littéraires des bouquins et des chansons. Et s'il m'en reste sur les bras, pourra-t-elle me pardonner d'avoir préféré les livres à l'amour qu'elle me donnait ? J'ai rencontré ce matin, devant là et de mon champ, une troupe d'écrivains, de pochetrons et de feignants. Voilà les jeux littéraires, vive la mouette et la jonc. Voilà les jeux littéraires des bouquins et des chansons. C'est pas très compliqué parce que Gilles Servan n'est pas un grand poète.
Mais tu l'as très bien parodié, Gérard, merci. Alors profitez-en, il nous en reste quelques exemplaires parce qu'en fait, c'est un médisant, ça part très très vite. Donc il nous en reste quelques exemplaires que vous pourrez en plus vous faire dédicacer par les auteurs présents, ceux qui ont participé. Donc il y a un florilège des textes là-dedans, donc de l'an dernier. Mais vous pouvez aussi, tant qu'à faire, demander à ceux qui sont là aujourd'hui de signer, pourquoi pas. Je ne balance pas plus longtemps pour vous présenter le jeu suivant. Voilà. Donc, c'est l'astrologo, l'horoscope du Guélan. Et s'il est en forme, le sar Rabindranath Dupuy, en bout de table, là-bas, va nous...
Qu'est-ce qu'elle a dit ? J'ai pas arrivé jusque-là.
J'ai un peu fabouillé, je voulais dire que le sar Rabindranath Dupuy, en bout de table là-bas, va nous peindre le portrait d'un cygne original, mais assez couru.
Et moi, je mange que des... Non, des espèces de poissons à l'huile, parce que le sar dîne à l'huile.
Voilà.
C'est issu de la même...
C'est de la même veine.
Donc, on va parler du cygne du goéland, et aujourd'hui, ascendant roman noir, évidemment. Mais je rajouterai un petit ascendant, un deuxième ascendant, qui est l'ascendant guano. Donc le natif du cygne est un être complexe, double, voire les soirs de grand vent, quadruple. En général, il n'est jamais satisfait de son état et préférerait être du cygne de la frégate et surtout de l'albatros, beaucoup plus poétique. En conséquence, il ne tient pas en place et râle incessamment. D'un naturel gueulard, il ne cesse d'embêter son entourage. Et quand il est énervé, donc quand il se lève tôt, il réveille tout le monde pour ne pas se sentir seul. Acariâtre, il reste un être très social, ne supporte pas la solitude, mais ne peut s'empêcher de gâcher la vie de ses proches par son énervement constant. Il souffre néanmoins d'être souvent ostracisé et vaguement détesté. Il faut préciser qu'il ne fait pas beaucoup d'efforts pour se faire mieux accepter. Il a également tendance à être un peu perso et rapia, vivant au crochet des autres, tout en se satisfaisant des restes, jusqu'à mériter des surnoms comme par exemple « grosse poule » ou « poubelle » qui lui reste longtemps à coller. Il est pourtant un mari assez fidèle et un bon père. Travailleur acharné, toujours sur la brèche, il aime se balader, mais pas trop voyager. Il ne va jamais très loin et a même tendance à être un peu casanier, restant dans le coin qu'il a choisi. Il aime aussi par-dessus tout se prélasser au soleil, en plein vent, et ne rien foutre en attendant l'heure des repas. Quand le natif du cygne goéland est de l'ascendant roman noir, ses défauts s'aggravent. Il devient en plus pessimiste, imagine le pire et voit tout en sombre. Il reste des heures immobile derrière sa table ou son bureau, se met à boire beaucoup, de nombreux natifs du cygne deviennent alcooliques, fume tout autant et cache son désarroi en tentant de faire de l'humour généralement déplorable. Bizarrement, il reste un convive apprécié, voire très demandé, car il est bavard en toute occasion et s'il y a du vin blanc, accepte de dormir un peu n'importe où. Et quand le natif du cygne est de l'ascendant guano, ça se complique, car il laisse sur les autres non seulement son empreinte, mais des traces indélébiles. Heureusement, le goéland ascendant guano est assez facile à repérer. Il suffit d'éviter d'être en sa présence et surtout sous sa coupe.
On plaint quand même les petits malchanceux qui ont eu sont nés sous le signe du goéland, alors surtout l'ascendant guano. En même temps, il y a quelques bons côtés parce que l'ascendant guano, finalement, c'est plutôt fertile. On peut se consoler comme ça. Hein. Et puis bon, pour l'autre, il n'y a plus qu'à aller boire un coup. On va arrêter là hein, parce que franchement, c'est...
Oui, il serait temps. Hein.
Alors, JB, dis-moi... Est-ce que tu peux me dire, JB, s'il y a des natifs du signe célèbre, ou bien alors on ne le sait pas parce que tout le monde s'en cache?
Ben, y en a un, mais j'ose pas le dire.
Tu pourrais peut-être le dire dans le micro.
Non, il y a. Ça dépend où. Ça dépend où. Si c'est ici, il y en a plein. Il y en a au moins.
On est nombreux.
Il y en a au moins 200 que je connais. Ailleurs, je ne sais pas trop. Il n'y a pas longtemps, j'étais en Savoie. J'en ai rencontré quelques-uns, mais les goélands dans le lac d'Annecy, il n'y a pas. Donc, ils viennent par ici après.
Bon, merci.
Non, mais il y en a un, vous l'avez tout de suite vu, vous l'avez devant vous. Enfin, il y en a deux, remarque, dont les cheveux poussent à l'intérieur, donc il ne faut pas savoir. Mais.
Je mets du guano.
Oui, non. Rénal est un pur signe du goéland ascendant roman noir, et Gérard l'ascendant guano. Parce qu'il a un tout petit peu plus de cheveux.
On va enchaîner avec les prévisions pour l'année. Comme le disait Pierre Dac, les prévisions sont difficiles, surtout quand elles concernent l'avenir. Encore Pierre Dac, le goéland a son avenir devant lui, mais il l'aura dans le dos à chaque fois qu'il fera demi-tour. Alors, Lucas Fournier, est-ce que vous pourriez nous dire quelles sont les prévisions, travail, finances pour l'année à venir? Vous pouvez le dire?
Je peux le dire, oui.
Vous pouvez le dire?
Je peux le dire.
Ah, on l'applaudit, il est formidable. Alors, comme Lucas aime bien être contraint, encore une fois, il fallait qu'il rende sa copie en alexandrin et si possible qu'il y glisse quelques homophonies approximatives.
Oui, j'ai fait des alexandrins de 12 pieds.
Ah, c'est formidable.
Bravo. C'est assez difficile. Hein.
C'est vrai, c'est très très difficile. Très rare.
Et donc, les prévisions du signe ne sont pas formidables, hein, pour l'année qui vient. Mais je vous signale quand même que le goéland n'est pas un signe, sinon ça se saurait. Alors, je vous fais le travail et finances. Travail. Le boulot, le boulot, le boulot, morne pleine. Combien de goélands qui seront dans la peine? Combien qui seront fauchés comme sous la mitraille? Parti comme en 14, il y aura de la casse, d'abord pour ceux qui bossent. Ils ne sont pas des masses. Le travail, le travail, le travail. Aïe, aïe, aïe. Des petits chefs odieux, la machine à café pétée pendant 6 mois, des collègues à baffer, et cet ordi planté, le stress chaque seconde, et puis un plan social, et la cantine, immonde. Et pour l'augmentation, nada, walou, que dalle. La possibilité d'un nul, façon Houellebecq. Où est le bec, ô goéland? Il est dans l'eau, ton bec. À chercher du boulot, toi qui veux un boulot. Ô goéland chômeur, délaisse Pôle emploi. On n'inversera pas la courbe des naufrages, même si Manuel Valls et Hollande dégagent. Car Bruxelles a ses choux et Wall Street a ses lois. Et alors? Tu t'en fous? C'est Hugo, hein? Et alors? Tu t'en fous, toi qui es waterproof? Songe à la douceur d'aller là-bas. La plage, la mer est toujours belle où tu vas faire ton plouf. Le Queen Yaman est bon et joyeux, le chouchant. Quand... Oui, mais c'est pour la rime. C'est pour la rime. Hein.
C'est une licence poétique.
Moi, le Queen Yaman est bon et joyeux, le chouchen. Quand brillent sur Pinmar tous les feux du couchen. Alors, finance, c'est guère mieux. Hein. Cher goéland masqué, dans l'année qui s'avance... Ah, qu'il sera béant le trou de tes finances. Que dis-je, c'est un trou, c'est un immense abysse, un gouffre qui fait peur à Cousteau, père et fils, un vide colossal, le cerveau de Bayrou. Tu diras, mes euros, ils sont passés par où? Entre la Pentecôte et l'autre Pentecôte, devrais-je renoncer aux frites à l'entrecôte? La rime est riche, hein? Oui. Le blé sera maigre et l'oseille discrète. Les impôts en septembre, les crédits et les traites, ça va douiller un max et tu vas dérouiller. Et voici mon conseil. Il y a toujours des conseils, hein, dans les petites annonces. Et voici mon conseil au goéland mouillé. Tu pourrais bien braquer la poste de Pinmar ou piquer ses pépettes aux marchands de homards. Mais non,
car Baudelaire l'a déjà formulé, tes ailes de goéland t'empêchent de voler.
Bon, on verra, il y aura peut-être un festival l'an prochain, peut-être pas, ça, les finances. On va demander à Rougier, on va lui en parler. On enchaîne avec Gérard Hall, à qui j'ai demandé de faire les prévisions en matière de santé sous la forme d'une ordonnance médicale. Alors la question que j'ai posée à Gérard, c'est est-ce que le Gouéland va devoir arrêter le Gouineru et le Butundrôle ?
Comme c'est une ordonnance médicale, j'arrive pas à relire.
Alors j'ai sans doute mal compris, j'ai cru qu'on m'avait demandé un bulletin de santé.
C'est bien
mon,
aussi.
Mon pauvre Goéland, pourtant c'est pas faute de t'avoir prévenu. Depuis le temps que tu fais n'importe quoi avec ton corps, ça devait arriver. L'examen de tes selles est hélas révélatrice. Alors que ton sale caractère devrait te rendre plutôt sujet à la constipation, tu chies mou. Oui, tu chies mou, mon vieux, et c'est pas un signe de bonne santé. Un passionné de romans noirs comme toi ferait bien de s'en inquiéter, car un vrai polardeux doit chier dur. Il doit chier des pavés, des boulons, des enclumes. Mais es-tu un vrai polardeux ? Le dernier bouquin que tu nous as pondu, loin d'être noir, était blanc comme neige. As-tu remarqué les regards condescendants de tes congénères ? Ne te fais pas d'illusions, tu faiblis, mon vieux. Désormais, la blancheur de ton plumage rebute la plus zélée des femelles zélées. Pour te consoler, tu peux continuer à fumer la moquette et à boire du bon vin. Comment t'en empêcher de toute façon, goéland à tête de mule ? Au lieu de picorer, essaye quand même de bouffer plus souvent à heure régulière. Surtout, je te conseille de t'aérer les bronches, goéland de mes deux. Cesse de vivre sur les déchets de la société et retourne à la vie sauvage. Prends de la hauteur, éclate-toi. N'hésite pas à pêcher en eau trouble. Évite toutefois le vélo, le jogging et la marche. C'est plus de ton âge. Et puis, il ne faut pas exagérer. Tu n'as pas autant à te faire pardonner que Jérôme Kerviel, le trader, ou Axel Kahn, le marchand d'OGM. Allez, voilà. Inutile aussi de te flageller ou de grimper un col des Pyrénées en plein mois d'août pour expier tes nombreux péchés. Simplement, il est temps que tu oublies les cancans des canards d'ici qui abrutissent l'opinion et te minent le moral. Ne sois pas amer, choisis la mer, l'envol et l'utopie. Loin de ton nid douillet à l'écoute des noirs corbeaux et des choucas des champs, tu regarderas le monde d'une toute autre façon et tu nous reviendras l'an prochain, l'œil vif et la plume rebelle, la fiente acide, certes, mais raffermie juste ce qu'il faut pour que ta plume touche enfin sa cible. Avant d'espérer changer le monde, tu dois commencer par changer ton monde. Sinon, ce monde bas du front finira par te bouffer les entrailles. Et n'oublie jamais ça, goéland. Quand l'anarchie dure, le facho rase les murs.
On atteint là des sommets, je ne sais pas comment on va pouvoir continuer. Patrick va nous dire les prévisions amoureuses.
Alors pour l'amour, j'ai choisi la forme du sonnet. Puisqu'il me faut ici dessiner l'horoscope de cet oiseau fougueux au masque de truand et dire tout de go de quoi sera fait l'an quand la sève viendra lui titiller l'échoppe. Alors, trouver une rime avec horoscope, c'est assez difficile, je suis arrivé à échoppe. Bon. Car s'il lui est aisé de jouir en solitaire, s'accoupler en volant demande un savoir-faire. Et l'on a vu souvent ses amants débutants se ramasser la gueule sur le guano gluant. Allitération en G. Aussi serait-il sage qu'il commençât l'année avec des proies faciles, de tendres jouvencelles, cueilleuses de goémons, grenouilles de chapelle, avant d'aller plus haut tutoyer les nuées, car comme le rappelle le poète immortel, des ailes de géants, c'est gênant pour baiser.
On peut le saluer aussi pour la qualité des alexandrins, les coupures à l'hémistiche, puis voilà. Mais on ne va pas s'étendre. Est-ce qu'on a fini avec l'astrologo, là ? C'est fini ?
Nous avons organisé un concours de lipogramme. Je ne sais pas si vous le saviez, peut-être, par le biais du... Non. Par le biais du site, ou quand, si vous avez assisté au joli magot de janvier, donc on avait proposé un concours parce qu'on avait envie de vous faire participer et puis que le plaisir de l'écriture puisse se poursuivre au-delà de ces rencontres. Et donc nous avions jeté notre dévolu sur un lipogramme. Donc un lipogramme, qu'est-ce donc ? Je ne sais pas si vous le savez, si vous n'avez pas assisté au joli magot l'année dernière, vous n'êtes pas censé forcément le savoir. Je vous épargne les hypothèses farfelues. Le principe de ce jeu d'écriture sous contrainte est simple. Écrire un texte en excluant tous les mots comportant une lettre désignée, une voyelle de préférence, comme l'a fait Georges Perec dans son roman La Disparition. Ici. À peine 300 pages sans un seul E. Nous avons imposé une seconde contrainte, la réécriture sous forme de lipogramme de la cigale et de la fourmi. Nos auteurs s'étaient déjà illustrés l'année dernière dans l'exercice en créant à partir de cette fable des lipogrammes en E, A, I et O. En toute logique, subsistait le U. Un lipogramme en U, donc, trop facile. U est une voyelle dérisoire de seconde zone, loin de la cour des grands E et A, pensez-vous. Pour preuve, elle rapporte un seul et unique point au Scrabble. Mais U cache son jeu. U est un sournois, un insoumis. U se dissimule, U joue l'arlésienne, tellement discret, voire galant, il s'acoquine intimement à d'autres lettres, qu'il en devient presque invisible. On ne l'entend guère, et pourtant, depuis que je vous parle, j'en ai utilisé 69. Bravo. Tout ceci pour souligner l'audace et l'habileté de nos candidats, pour ne pas parler de courage face aux défis ardus que nous avons osé leur lancer. Ils n'ont pas reculé, et ont souffert, nous le savons. Ils ont tous produit des textes de grande qualité, ponctués de bonheur d'expression, mêlant fantaisie et humour, pas de côté cabriole, avec un talent indéniable. Et nous ne pouvons que leur tirer notre chapeau. Comme vous l'avez compris, je pense, le choix fut vraiment cornélien, un véritable dilemme, mais il nous a fallu choisir malgré tout. Et nous avons choisi, mais nous avons choisi deux lipogrammes. Une plume d'argent. Parce que vraiment, c'est le texte qui est ressorti parmi tout ce qu'on a reçu. Et une plume spéciale, parce qu'on n'a pas pu résister. Alors, notre plume d'argent revient à Marie-Renée pour sa cigale et Donna Formica. Voilà. Nous avons fait une broche pour la plume d'argent.
Oh, avec un U.
Avec un U du Scrabble.
Du Scrabble. Eh bien, écoutez, normalement, on remercie dans ce cas-là, non ? Qu'est-ce qu'on doit faire ? Je ne sais pas. La cigale et Donna Formica. Des terrasses de Cannes, celles de Saint-Tropez. DJ, je ne sais pas si on dit DJ ou DJ. Comment on dit ? DJ préféré des soirées branchées. La cigale n'a pas senti passer l'été et les premiers frimas se pointaient. Grelottant dans son short percé, cet écervelé commence à se l'écailler. Transi et affamée, elle se précipite dans la pizzeria de Donna Formica et demande sans payer de la pizza à grignoter. Mais Donna Formica n'est pas Mère Teresa et rappelle à cette effrontée la devise affichée. Afin de garder tes amis, ne fais pas crédit. Désappointée et traînant les pieds, la cigale accompagnée de son banjo, ben je ne pouvais pas mettre guitare, hein. la cigale accompagnée de son banjo se met à chanter Au soleil mio.
Parce qu'une contrainte est faite pour être détournée, que se jouer des limites, c'est toujours jouer, que titiller les consignes, c'est faire enrager ou forcer l'admiration d'un jury, parce que c'est audacieux et périlleux, nous avons décidé de créer un prix spécial du jury. Et Jean-Bernard Pouy va nous lire le texte, c'est ça ?
C'est moi qui l'écris. Hein.
Non, mais porte-parole.
C'est quelqu'un qui est dans la salle, mais qui ne veut pas le lire apparemment. Donc... Alors,
Non, c'est pas Gilles Servat, parce qu'à ce moment-là, je refuserais de le
dire. Il est possible que la personne qui est dans la salle ne sache pas d'ailleurs que c'est son texte qui va être lu.
Ah, ah oui, c'est compliqué. Et alors, c'est quoi là? C'est l'hypogramme en U?
C'est ça.
C'est ça? Oui. Je crois que c'était en Z, mais non, c'est en U.
Totoche.
Donc, ça s'appelle La cagole en hiver. C'est l'histoire de la cagole. Elle profite, elle rigole, fonce de concert en festival. Y passe la saison estivale. Hélas, cette période se termine. Elle déprime. Comment passer l'hiver et attendre les primes verts? Aller en fest-nose afin d'échapper à la narcose? Elle tente la chose et frise l'overdose. Trop de braise à Tao et néfaste à ses libidos. Elle traîne les bistrots et croise les poivrons. Maigres palliatifs, ils ne sont pas très lascifs. Elle tombe dans la boisson, glisse pochetron, s'étiole, triste destin de la cagole. Alors, qui c'est qui a commis ça? Ah bah alors... Bah...
Faites chauffer vos crayons, l'aventure continue. Deuxième session de concours. C'est un exercice de style... style ambiance roman noir à partir de l'Albatros de Baudelaire. Je vous laisserai, si vous le voulez, prendre un exemplaire.
On a aussi pensé faire... ça, c'est donc pour le public. Et puis pour les auteurs qui sont... Ça marche, ce truc-là? Oui, oui. Les auteurs un peu plus habitués à la contrainte, on a pensé leur faire l'Albatros style natation. Puisque style natation, puisque Queneau avait donc... commis ça, bien sûr que tout le monde connaît, enfin commis, j'exagère. 99 exercices de style, il y en a un qui n'avait pas développé, c'est le style natation, donc on s'est dit que l'Albatros, c'était l'occasion. Je ne sais plus où on en est, on a fini sur le... Donc il faudra aussi vous dépêcher parce que ce sera avant le 15 septembre, je crois. Enfin, tout est sur les fiches et on va terminer, on va essayer de terminer de manière assez correcte par une petite chanson. Bon, on va essayer, hein. On verra bien si on se fait appeler Assurance Tour X à la fin. Donc on va finir par l'hymne des jolis magots. Donc vous allez le voir. On se lance? Bon, allez, on y va. C'est le plaisir de J.B. Weir qui aux Quellettes souffla l'idée de jolis mots vous réjouir. V'là le goéland logo guidé. Avec impudence, les mouettes s'étaient donné pour ambition que l'empenné se pique assiette de sa plume se fit un nom. Leur hélico, le volatile, s'essayant à l'Alexandrin, rêve à l'exercice de style, il en perdait son pied marin. S'éveillant, il dit, je m'amuse, je m'en vais bien la lutiner. Bien sûr, il parlait de la muse, ne l'aviez-vous pas deviné? Sur le lape, Raymond Queneau, comme son pote le Lyonnais, sentit frémir sa libido, qu'on nous chatouille à ça jamais. Faudrait-il craindre leur vengeance, aux reproches tendre le dos? JB se dit, c'est bien ma chance, faire des cornes à l'Olipo. Par bonheur, rieuses les mouettes ne se prennent pas au sérieux. Si le goéland est un poète, pour rigoler, il n'y a pas mieux. Comme elles ne sont pas bégueules, les poulettes lui font doux les yeux. Si le galant est fort en gueule, de poète il est joyeux. Voici donc au joli magot, Lucas Dufour, Patrick Rénal, Rigolando, Manon Tropo, du Cibulumbé plus Grantal, du Ciboulot toujours contraint. Ils vous ont loyaux troubadour, pendu 3, 6, 1, 5, 4, 1, rimaillant vous faisant la cour. Rappelant à la mode Pérec du festival Les Bons Moments, Ils ont prouvé que le varech va la prose fertilisant. Dans le guano lire l'avenir, ils l'ont fait en vrai bout en train. S'ils eurent l'heure de divertir, ils reviendront en mai prochain.
Car en goéland,